On en vient à ce retour en France très attendu de Mohamed Amra, le fugitif français interpellé en Roumanie après 9 mois de cavale, est arrivé en début de soirée à l'aéroport de Villacoublay. Gérald Darmanin a demandé à ce qu'il soit placé à l'isolement dans un établissement de haute sécurité. Alors on va évoquer dans un instant ses futures conditions de détention. On vous racontera aussi les coulisses de sa cavale. Mais avant, on va prendre la direction du tribunal judiciaire de Paris où l'on vous retrouve, Boris Karlamov. Bonsoir Boris. Le narcotrafiquant a été présenté à un juge d'instruction, juge qui l'a, sans surprise, mis en examen. Pour quel chef d'accusation ?
Oui, absolument. 9 mois après son évasion lors de l'attaque au péage d'Incarville, Mohamed Amra a donc été ce soir mis en examen par les 3 juges d'instruction de la Junalco, mis en examen pour diverses infractions, meurtre en bande organisée, tentative de meurtre en bande organisée, évasion en bande organisée, vol en bande organisée, recel de vol en bande organisée et association de malfaiteurs. Lors de son interrogatoire de première comparution devant ces 3 juges d'instruction de la juridiction nationale de la lutte contre la criminalité organisée, eh bien, Mohamed Amra a gardé le silence. Il va d'ici quelques minutes être présenté à un JLD ou à un juge des libertés et de la détention qui va donc devoir statuer sur son placement en détention provisoire. Vous l'avez dit, Perrine, Mohamed Amra, qui a donc été transféré en France cet après-midi par un avion spécialement affrété. Il est arrivé ici au tribunal judiciaire de Paris peu après 20h et un peu plus tôt dans la journée, eh bien, l'entourage de Gérald Darmanin a indiqué que le garde des Sceaux avait fait une demande pour qu'il soit placé à l'isolement dans un établissement de haute sécurité. Oui, mais voilà, ce seront bel et bien les juges qui auront le dernier mot dans cette affaire.
Merci Boris Karlamov, et on suivra donc cet entretien devant le juge des libertés et la détention, même si ça fait pas beaucoup de doutes sur le fait qu'il soit envoyé en prison dès ce soir. Bonsoir Pauline Revenat, vous êtes chef du service police-justice de BFM TV. Bonsoir Patrick Maisonneuve, vous êtes avocat pénaliste. Bonsoir Yoann Cara, vous êtes surveillant pénitentiaire, secrétaire général adjoint FO Justice. On va discuter avec vous des conditions de détention à venir de Mohamed Amra. Bonsoir Bruno Pomar.
Bonsoir.
Ancien instructeur du RAID, président du think tank Initiative Sécurité Intérieure. Et bonsoir Richard Marlet.
Bonsoir.
Vous êtes commissionnaire divisionnaire honoraire, ancien chef de l'identité.
Pas commissionnaire.
Commissionaire. Je mélange les mots. Commissaire divisionnaire honoraire. Ancien chef de l'identité judiciaire au 36 quai des Enfers et président de l'association Crime et Sciences. C'est bon, j'ai tout bon?
Bah oui. C'est dommage que vous ayez trébuché au début.
Vous m'en voulez pas?
Bien sûr.
Bon, allez, on va la refaire. Vous allez voir, ça va bien se passer. Patrick Maisonneuve, je me tourne vers vous puisque ce soir, on a donc cette mise en examen qui n'est évidemment pas une surprise. On a les détails des chefs d'accusation pour meurtre, tentative de meurtre, évasion, recel de vol, le tout en bande organisée ainsi que pour association de malfaiteurs. Donc les chefs d'accusation, ils sont extrêmement lourds, ils sont pas surprenants.
C'est pas surprenant, ce sont les peines encourues qui sont les peines majeures, hein, sur la réclusion criminelle, c'est pas une surprise. La question qui va pouvoir se poser à un moment ou à un autre, mais ça ce sera dans l'information judiciaire et dans l'exercice notamment des droits de la défense. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu l'évasion entre ceux qui ont effectivement attaqué le fourgon avec les conséquences absolument tragiques que nous connaissons, le rôle qu'a pu jouer à ce moment-là celui qui était l'évadé ou le futur évadé, est-ce qu'il participe ou non à cette action criminelle? Il y aura sûrement un débat sur cette question-là, mais ce sera un débat au niveau des preuves. Je pense pas au niveau des mises en examen, des indices graves, etc.
Mais parce que tout ça en train de se résoudre ce soir. Si les mises en examen pour meurtre, c'est qu'on considère que potentiellement c'est lui qui a commandité cette
évasion. Ce sont des indices. Parce que vous savez que la mise en examen, en matière pénale, on est à 3 niveaux. Les indices pour la mise en examen, les charges pour être envoyées devant une juridiction, les preuves lorsqu'on est jugé ou déclaré coupable ou pas coupable. On a 3 niveaux. On est au premier niveau sur les indices. Étant entendu d'ailleurs que c'est la personne qui est aujourd'hui poursuivie, je crois qu'elle était déjà mise en examen pour d'autres faits qualifiés criminels, correctionnels, stupéfiants, avoir commandité des assassinats ou pas. Enfin, je sais pas les dossiers qui me disent ça. Ce sont ce qui a été les comptes rendus de presse. Mais en tous les cas, sur ce qui peut intéresser aujourd'hui, ce qui doit intéresser aujourd'hui sur cette action majeure criminelle qu'on a tous vu, quel est son degré d'implication, de préparation, de préméditation, ça, je crois qu'il va y avoir un débat judiciaire.
Mais alors, permettez-moi une question qui va vous paraître naïve. Mais
non,
jamais. Quand on parle de meurtre, lui n'avait pas l'arme à la main. Il a été.
Non, mais même si vous n'avez.
C'est le commando qui a fait mal. Alors voilà, dans quel cas on considère que vous pouvez être condamné pour meurtre.
Juridiquement, même si vous n'avez pas l'arme à la main, vous pouvez être considéré comme co-auteur d'un meurtre ou d'un assassinat. C'est le thème de la coaction. Je ferai une seule référence. Ça a été l'affaire de l'assassinat du préfet Erignac, où là, il y a eu un tireur, mais les juges ont estimé, la cour d'assises a estimé qu'il y avait une coaction de l'ensemble des acteurs sur la scène de crime. Donc même si on ne tire pas, on peut être considéré comme co-auteur. Je dis pas que c'est son cas, hein.
Et il risque combien, là, pour tous ces chefs d'accusation?
La réclusion criminelle à perpétuité.
La réclusion criminelle à perpétuité dans des conditions de détention qui vont être extrêmement strictes. On verra ça dans un instant avec vous. Mais avant, Pauline, il est passé ce soir, donc, dès son arrivée en France, il a été escorté par le GIGN au tribunal. Il a rencontré le juge d'instruction pour un premier interrogatoire. Lors de ce premier interrogatoire, c'est le moment où on le questionne sur sa version des faits.
Il a gardé le silence. Donc, comme ça, ça a été assez rapide, c'est l'avantage. Et il est un peu dans sa logique, puisqu'on a vu lors des rapides échanges qu'il a eu avec la presse ou en Roumanie que pour l'instant, il ne reconnaissait pas les faits pour lesquels qui lui étaient reprochés, pardon, et qu'il considérait qu'il était en Roumanie pour des vacances. Donc on est quand même assez loin de la vérité. Et il peut y avoir une petite marge de manœuvre, de progression en tout cas au cours de l'instruction. Donc il a vu les juges d'instruction de la Junalco. Ça a été assez rapide. Là, il est devant les juges des libertés de la détention pour savoir si oui ou non il va être placé en détention provisoire. La réponse est oui. Simplement, il faut le notifier. Mm-hmm. Et ensuite, il sera transporté dans cet établissement choisi de haute sécurité.
Avant d'évoquer le cas de cet établissement, Bruno Pomard, on a vu ces images cet après-midi, cette escorte, il a son transfert de la Roumanie à la France, évidemment c'est fait sous très haute sécurité, à bord d'un Falcon, escorté donc par le GIGN qui ne l'a pas quitté.
Oui, alors j'ai des interrogations effectivement sur la première partie qu'on a vue lorsqu'il y a eu l'évacuation, l'arrivée à l'aéroport de Bucarest et cette entrée dans le hall de l'aéroport. Ça m'a un peu interpellé, je vous cache pas, mais là je vous parle de façon très technique. Ouais. Hein. Rentrer dans l'aéroport avec des badauds qui étaient tout autour, des hommes armés en fusil d'assaut, etc.
Il était pas assez protégé selon vous?
Non, ça m'a fait peur pour l'environnement, parce que admettez qu'il y ait un commando qui soit là pour le délivrer, pourquoi pas. Ouais. Enfin, excusez-moi, des fois je fais attention un peu, mais les problèmes de sécurité, c'est quelque chose qui me ronge.
Là, c'était trop exposé.
Oui, totalement. On aurait pu l'amener directement sur le tarmac. Moi, j'en ai fait des extractions.
Mais on est quand même dans la communication, là.
Pardon? Oui, je pense qu'on était
là. Les autorités roumaines sont dans la communication.
Vous avez raison.
Elle le montre.
Une volonté de
ministère. Et lui aussi.
Tout à fait. Alors, ça remet pas en question le travail qu'a fait la police, évidemment.
Non.
Mais je trouve que la méthode.
Et lui aussi en profite, d'ailleurs.
Oui, mais la méthode était limite, quand même, en termes de sécurité. Effectivement, ça méritait quand même une extraction par l'extérieur. Enfin, bref, voilà. C'est un détail particulier. En arrivant en France, évidemment, le GIGN l'a pris en charge, on a pu le voir tout au long de cette journée avec des véhicules blindés. Vous avez vu les Toyota blindés qui sont généralement utilisés en ambassade, dans les ambassades à haut risque. Le GIGN les utilise au même titre que le RAID d'ailleurs, pour pouvoir faire une extraction en toute sécurité avec une escorte qu'on a vue avec des motards et tout ce qu'on peut imaginer. Voilà, bon, ça demande effectivement...
Ce qui n'a rien d'exceptionnel. Non. Dans les grandes affaires criminelles ou de grand banditisme, les sécurités renforcées, les fourgons blindés, les hélicoptères au-dessus des escorts, ça on l'a vu.
Et quand on a fait le transfert sur les lieux...
N'en créons pas là un événement majeur.
Et on sait que c'est les moments les plus sensibles.
C'est déjà arrivé à plusieurs reprises. C'est mesures de sécurité qui sont normales, d'ailleurs.
Mesures de sécurité normales quand on a des individus de ce calibre-là et avec un placement en détention. Gérald Darmanin l'a dit, il sera incarcéré dans un établissement pénitentiaire de haute sécurité à l'isolement. C'est-à-dire concrètement, quelles vont être ces conditions de détention?
Elles vont être un peu similaires de ce qu'on a pu connaître, notamment, je pense, dans l'affaire Abdeslam. Voilà, c'est-à-dire qu'on va isoler en fait ce détenu, notamment donc du coup à l'isolement. Voilà, on a des isolements un peu partout au niveau des établissements pénitentiaires, mais on a des établissements qui ressortent un peu plus en termes de sécurité. Je pense à Vendin, Condé, Fleury-Mérogis. Enfin voilà, des établissements très sécuritaires avec des parties de la prison où effectivement on opère cet isolement. Alors cet isolement, il s'opère comment? On place un détenu dans ces unités pour l'isoler complètement du reste de la population pénale. Voilà. Donc c'est un détenu qui va être accompagné du coup à chacun de ses mouvements par plusieurs agents. Donc agents qui vont être eux-mêmes en sécurité avec des équipements, etc. Voilà, pas mal de choses. Après va se poser aussi la question de l'anonymat. Les agents qui vont le prendre en charge. Il aura le droit à une heure de promenade par jour, seul. il ne pourra faire aucune activité collective. Il aura des fouilles qui seront beaucoup plus prononcées, notamment pour vérifier qu'il n'a pas de téléphone portable. Peut-être même des changements de cellules intempestifs pour essayer de d'éviter de le figer dans un endroit de la détention. Enfin, voilà, il est quand même pas mal. Alors je peux pas non plus tout dire pour,
Peut durer cet isolement ?
Eh ben, l'isolement peut durer très longtemps. Elle peut durer. Donc là, on va certainement rentrer dans le cadre d'un isolement judiciaire.
Judiciaire.
Ça va être à la demande du magistrat qui peut prendre le temps de toute sa détention provisoire. Et après, effectivement, on a une autre forme d'isolement qui est l'isolement administratif, qui est décidé par l'administration, au départ par le chef d'établissement, puis le directeur interrégional, et enfin l'administration pénitentiaire et le ministère. Et là, effectivement, en termes de délai, on peut être sur des durées qui peuvent être sur plusieurs mois, voire plusieurs années.
Est-ce que c'est un régime particulier parce que c'est Mohamed Amra, ou d'une façon générale, dès que vous avez un détenu qui s'est évadé, généralement, il est placé à l'isolement, il fait l'objet de mesures de surveillance extrêmement strictes ?
Alors, inévitablement, quand on voit qu'un détenu a pu profiter d'une faille dans le système et qui a permis son évasion, dans le cadre de grandes affaires, effectivement, il y a généralement un classement à l'isolement, mais quand vous êtes dans le cadre d'une évasion, par exemple, sur le permis de sortir, effectivement, on ne va pas remettre un détenu à l'isolement pour de tels motifs. Mais dès l'instant voilà, où vous avez comme ça des profils très particuliers et très dangereux, il y a quand même des mesures qui sont mises en place et l'isolement en est une réponse.
Il faut quand même rappeler, Richard Marlet, c'est que c'est en prison qu'il est devenu ce grand voyou, c'est en prison en fait qu'il a fait ses armes, c'est en prison qu'il aurait visiblement commandité des assassinats et qu'il aurait développé son business, d'où aussi toutes ces mesures de surveillance extrêmement strictes.
Je ne sais pas si c'est vraiment en prison. Je pense que
la prison et la vie.
Oui, c'est l'initiative de son business. Elle commence avant la prison. Bon, après que on le sait, la prison est l'école du crime.
Ouais.
Bon. Donc après, il continue.
Il est accusé d'avoir commandité des assassinats.
Oui, bien sûr. Mais c'est bien après. On parlait de son cursus, en fait. Ouais. Donc, évidemment, la prison, c'est l'école du crime. Il va monter en puissance. Et puis, on arrive. Je trouve que, j'ouvre une parenthèse. Il y a une quinzaine de jours, en fait, j'étais là pour parler des investigations de la police judiciaire sur cette terrible affaire de la petite Louise. Et puis 15 jours après, en fait, je viens essayer de parler de Mohamed Amra, en fait. Et à chaque fois, c'est pour rendre hommage au travail formidable qu'a fait la police judiciaire de Versailles, et cette fois la direction nationale de la police judiciaire. Donc ça, c'est fait. Mais juste aussi pour dire que on a affaire, dans les deux cas, à des affaires qui, comment vous dire, peuvent servir d'éveil de conscience. La libération d'Amra, c'est un assassinat. Enfin, je veux dire, je vais pas. Il est mis en examen pour meurtre, mais peut-être qu'on retiendra la préméditation ou le guet-apens, et à ce moment-là, on passerait dans une autre catégorie. Ce sont des faits extrêmement graves, et en fait, c'est peut-être l'occasion d'une prise de conscience de ce qu'est la criminalité organisée. La criminalité organisée, c'est pas une spécialité américaine, c'est pas une spécialité colombienne ou mexicaine. Il semble bien que ça commence à devenir quelque chose de franco-français. Donc on a vraiment là, il faut prendre conscience que les faits sont extrêmement graves et qu'on a affaire, et c'est l'intérêt de toute cette enquête, que je trouve formidable, c'est la mise en évidence d'un véritable réseau criminel parfaitement organisé, avec des prolongements à l'étranger. Je trouve que c'est extrêmement sympa.
Et d'ailleurs, la procureure effectivement a parlé d'organisation criminelle déterminée. Il y a 22 gardes à vue, me semble-t-il. On va y revenir dans un instant, parce qu'il va falloir aussi déterminer le rôle des uns et des autres, qui a agi avant l'évasion, pendant l'évasion et après l'évasion. Mais j'aimerais quand même revenir sur l'attitude de Mohamed Amra par rapport à la gravité des faits qui lui sont reprochés. On a tous été stupéfaits de le voir tout sourire, avec ce sourire quasiment narquois sur le visage. Est-ce qu'il a conscience, à ce moment-là, on parlait il y a un instant des conditions de détention, est-ce qu'il a conscience des conditions de détention qui l'attendent ?
Ça, c'est très difficile de vous répondre sur ce sujet, ce qui lui traverse le cerveau au moment où, effectivement, il a ce comportement. Les conditions de détention, il les connaît, parce que il a été déjà incarcéré, il a été dans des conditions où il était quand même très surveillé, il avait une grosse vigilance. Donc, il sait ce que c'est. Mais vous savez, on est dans un monde où la prison, l'incarcération, l'isolement, ça fait partie effectivement des données de la vie pour celles et ceux, en l'occurrence ceux qui sont ce qu'on vous appelez la grande criminalité, la casse-prison, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Ça fait partie des parcours de ceux qui se sont
engagés. Est-ce que c'est valorisé dans les parcours des narcotrafiquants?
Alors, non, mais ça peut être valorisant par rapport au recrutement notamment, parce que on devient à ce moment-là effectivement plutôt un leader. Et le leader, il a plus de facilité pour recruter. Le recrutement, c'est pas seulement un problème financier. C'est aussi une sorte de charisme que l'on peut avoir, une autorité. Mais encore une fois, ce que je veux dire, c'est pas quelque chose de nouveau. Lorsque on parle de grand banditisme, lorsqu'il y avait le grand banditisme, notamment à Marseille, sur Gaëtan Zampa, sur d'autres à ce moment-là, c'était quelque chose qui était bien présent et bien prégnant, y compris en ce qui concerne les conditions de détention. Les conditions de détention à haute sécurité, Mesrine a eu de la haute sécurité pendant tout son temps d'incarcération, ce qui n'a pas empêché des évasions, ce qui n'a pas empêché les actions qu'a pu mener Mesrine à ce moment-là. J'ai parfois l'impression qu'on découvre quelque chose, alors que dans notre histoire judiciaire et policière, eh bien, ces comportements-là, on les a eus à de nombreuses reprises.
Non, mais
je regrette pas d'être invité chez vous.
C'est intéressant ce que vous dites. Ça permet de relativiser aussi l'attitude de Mohamed Amra. Ouais. Et c'est vrai que tout à l'heure, on le voit à l'aéroport, il y a un journaliste qui lui pose la question et qui lui dit « Est-ce que vous avez peur de revenir en France ?» Et toujours avec son petit sourire aux lèvres, son petit sourire narquois, il dit « Voilà, je vais pas pleurer en souriant. » Alors même qu'on vient de décrire ces conditions, conditions de détention. On a l'impression quasiment que ce serait que pour lui, c'est une certaine façon, je sais pas, peut-être que je fais une mauvaise interprétation, mais d'entrer dans la légende.
C'est un moment de la vie. Bien sûr. Oui, bien c'est un moment de sa vie.
C'est un moment de son. Vous parliez tout à l'heure de mise en scène.
Et sur la grande criminalité.
C'est une référence. C'est une référence.
La case prison, elle a rien d'exceptionnel.
Là, il va y rester un moment. Donc là, il pavane un peu. Il est narquois.
Il y a son moment de gloire, mais.
Oui.
C'est drôle aussi, hein. Voilà.
Vous savez, moi, pour prendre en charge pas mal de jeunes qui sont issus des milieux carcéraux, on les voit, c'est des stars. C'est des petites stars. Alors, lui, c'est la grande star du narcotrafic, mais les autres en dessous, c'est pareil.
C'est pas une grande star, espèce de
existentielle.
Évader,
je suis un caïd et voilà. Et on a l'impression d'avoir les narcotrafiquants colombiens, etc., lorsqu'ils sont arrêtés, ils prennent ça un peu à la légère en disant ça va le faire parce que j'ai des avocats. Et lui, il est exactement dans cette.
Est-ce qu'il y a certains détenus qui arrivent à poursuivre leur business en étant placés à l'isolement? Est-ce qu'on arrive quand même à faire rentrer des téléphones portables quand on est à l'isolement dans des prisons de haute sécurité?
Pour lui, ça va être compliqué.
Oui.
Dans un premier temps.
Ce mot de prison haute sécurité, il est encore un peu galvaudé, hein, malheureusement, on va se le dire. La prison punitive, telle qu'on peut l'imaginer, à aujourd'hui, elle ne l'est pas encore. Il a fallu encore un gros changement de paradigme, un gros changement de mentalité pour faire accepter que oui, on a une population pénale qui est de plus en plus violente, voilà, à l'image du détenu Amra, et que nous aussi, on doit s'adapter. Alors, on y arrive petit à petit, où par exemple, voilà, on commence à renforcer par des équipes locales de sécurité pénitentiaire pour pouvoir intensifier les fouilles, pour essayer aussi de commencer à armer un peu les surveillants pour pouvoir déjà riposter, se défendre.
Vous avez les iris aussi.
Il y a les iris, voilà. Mmh. Et on voit que petit à petit, on va quand même dans ce cheminement sécuritaire. Voilà, on a porté pas mal de projets là-dessus. On voit qu'elles aboutissent, mais on voit que ça prend du temps.
Bien sûr.
Parce que malheureusement, on est un peu bloqué et très souvent par des associations, des idéologues qui pensent que la prison est surtout là, tournée vers la réinsertion. Certes, on doit sortir un détenu meilleur que ce qu'il est rentré, mais pendant ce temps d'attaque carcération.
Ça vous fait rire de parler de réinsertion
Ça me fait sourire parce que je vois pas trop aujourd'hui, entre le discours du ministre de l'Intérieur, du garde des Sceaux, la place des idéologues pour dire il faut être complaisant. Peut-être, si vous voulez, mais aujourd'hui, on n'en est pas là. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'en ce qui concerne, je ne suis pas hostile au fait que le garde des Sceaux dise on va faire des prisons ultra sécurisées. Moi, ce que je pense, ce que je crains en tous les cas, c'est que les chefs de gang ou les chefs narcotrafiquants, on va assister à des phénomènes de délégation de pouvoir. Parce qu'à partir du moment où ils vont être totalement isolés,
ils vont les fragmenter,
et hyper surveillés, le prix de la délégation va augmenter, le prix de l'exécutant va augmenter. Si c'est 1000 euros aujourd'hui pour un portable, parce qu'il y a des problèmes de corruption qui se posent également au niveau partout, que ce soit l'administration, les avocats, ce que vous voulez, hein. Mm-hmm. C'est pas le sujet. Les prix vont augmenter, c'est pas comme le trafic de stupes, hein. Plus on fait de la répression, plus ça augmente. Faut peut-être, éventuellement, du côté du blanchiment, etc., imaginer peut-être d'autres solutions, à mon avis.
J'aimerais revenir, Pauline Revenat, alors qu'on en apprend à l'instant, c'est Boris Karlamov, notre envoyé spécial au tribunal, qui nous dit que l'audition devant le juge des libertés et de la détention a commencé. Mm-hmm. J'aimerais revenir, Pauline, sur ces conditions de cavale, parce qu'on en apprend chaque jour un peu plus sur cette cavale qui a duré 9 mois, et notamment le fait qu'il a passé l'essentiel de ces 9 mois en France.
Oui, donc il a passé la majorité de sa cavale en France, avec peut-être une incursion à l'étranger avant la Roumanie, mais elle n'est pas encore confirmée. Ce qu'on sait, c'est qu'il arrive en Roumanie il y a très peu de temps, finalement, et qu'il a passé la majorité de sa cavale en France, dans sa zone de confort, si on peut dire, plutôt entre Évreux et Rouen, on va dire, là où il a le plus de réseau, là où il a le plus de complicité potentielle. Et c'est comme ça qu'il a réussi. Il a fallu beaucoup d'argent, il a fallu beaucoup d'amitié, il a fallu beaucoup de complicité. Et c'est exactement dans cette bande des 22 qui sont gardés à vue et qui vont être déférés entre aujourd'hui, demain, après demain. On va voir qui a fait quoi exactement. Et pour reprendre les mots de la procureure de Paris, il y a des logeurs, il y a des logisticiens, il y a des préparateurs. En fait, c'est comme une gigantesque PME. Il va falloir comprendre qui a fait quoi,
est-ce
à quel
qu'on
moment.
Sait si les membres du commando qui ont attaqué le fourgon pénitentiaire à Incarville, est-ce qu'ils font partie de ces gardes à vue?
Très probablement. En fait, la procureure de Paris va nous faire un détail une fois que les déferments auront eu lieu, mais il est probable qu'il y ait
les deux Marocains seraient
les accusations précisément.
Et l'Espagnol.
Sur cette cavale, Pauline disait, en fait, il a passé la grande partie de son temps en France. Je vous voyais acquiescer, elle disait, dans sa zone de confort. Le moment du transfert, quand un fugitif change de planque, c'est le meilleur moment essayer de l'avoir, c'est le moment où il est le plus vulnérable.
C'est très difficile de vous répondre. Je pense que là, il y a eu... Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'environnement de Mohamed Amra, sa meilleure connaissance, commence avant son évasion. C'est-à-dire que la police judiciaire a déjà accumulé beaucoup, beaucoup, beaucoup de renseignements sur son environnement. Évidemment, ça va s'accélérer au moment de l'évasion. Et là, en fait, l'idée, c'est évidemment de retrouver Mohamed Amra, mais c'est aussi de neutraliser toute l'équipe. Et après, donc, souvent, c'est beaucoup plus simple de rester dans sa zone de confort. Et à un moment que lui décide, ou son entourage, à un moment où lui... Et en fait, il va y avoir une coïncidence, c'est la Roumanie qui rentre dans l'espace Schengen, il n'y a plus de contrôle aux frontières, c'est une opportunité. Bon, et puis voilà, il bénéficie d'un réseau de complicité et il a beaucoup d'informations sur la facilité. On va lui dire, écoute, c'est le moment d'y aller. Et on va lui fournir la voiture qui va bien, voire les voitures qui vont bien, changer de voiture dans un pays, arriver dans un autre. Et puis voilà, à un moment, et ça c'est on dit tout le temps, pour la police judiciaire, le temps travaille pour elle. En fait. Il y a un moment où il va y avoir un élément déclencheur.
Mais ce qui serait intéressant, c'est de savoir quel est cet élément déclencheur. Voilà. Qu'est-ce qui l'a fait sortir de France, partir en Roumanie?
Bien sûr que oui, mais là...
Il y a un fil qui a été tiré.
On ne sait peut-être que la Roumanie était un passage.
On le saura. Visiblement, il y avait de la chirurgie esthétique pour aller en Colombie.
C'est ça. Les auditions sont en cours. On va essayer de comprendre le passé. On va comprendre le présent. Et puis, on va essayer de comprendre son futur. C'est-à-dire, évidemment, ce qu'il envisageait. Quels étaient ses objectifs? Qu'on dit, voilà. C'est la police roumaine qui dit, il est venu en Roumanie pour faire de la chirurgie esthétique. Et son désir, c'était de partir en Colombie.
Voilà. Il faudra savoir si la Roumanie a des qualités sur la chirurgie esthétique ou pas.
Oui. Et ce qui a été intéressant dans cette affaire, c'est que depuis le début, on voit qu'il y a une organisation énorme derrière.
Voilà,
parce que c'est resté sur place.
Moi, il y a une chose qui m'interpelle, Bruno Pomar, c'est qu'on parle effectivement, là pour l'instant, de 22 gardés à vue. Donc on imagine bien le réseau de complicité qui a été
mis en place. Mais il y en aura peut-être plus, il y aura peut-être encore d'autres.
Il y en aura peut-être plus, et peut-être aussi d'autres qui seraient morts visiblement dans le réseau.
Mais bien sûr, morts ou encore actifs.
Regardez. L'embuscade, le commando, armé, super spécialisé, positionné comme il fallait avec ce qu'on sait au résultat malheureusement, l'évacuation, les voitures relais, etc. Il y a une véritable organisation et le plan Épervier qui a été mis en place pour ceinturer toute la Seine et malgré ça,
il passe
malgré ça, mais moi il y a quelque chose aussi qui m'intéresse par rapport à ses complicités, c'est qu'il fuit en Roumanie. Là visiblement il fuit avec la complicité de deux personnes, un Français et un Albanais qui aurait loué l'appartement, qui lui aurait amené des vivres, de la nourriture et de l'eau. Mais là visiblement eux étaient repartis, donc ça veut dire qu'il était manifestement seul en Roumanie dans sa cavale.
C'est quelque chose je retirerai le manifestement.
Et donc
parce que c'est extrêmement prématuré pour le dire. Hein. Oui. C'est-à-dire que on peut très bien imaginer en fait que lui ou un de ses complices prennent la Roumanie n'est pas épargnée non plus par le banditisme. Donc voilà, on peut très bien imaginer qu'il y ait d'autres contacts et qu'on passe à autre chose. On en est au début en fait. Il va à chaque interpellation. Sont des milliers d'informations qui vont être récoltées.
Il ne faut pas nécessairement lier le commando qu'il a fait évader à l'assistance qu'il a pu avoir après son évasion.
Il y a peut-être plusieurs équipes.
On peut être vraiment sur deux sujets totalement...
Avec des personnes qui ne se connaissent pas
avec
forcément...
Avec des niveaux de responsabilité différents entre celui qui va
la location d'appartement,
une chambre, une location d'appartement,
les repas, etc. Il fallait une logistique sur place.
Les courses qui sont faites...
Et puis l'argent, parce qu'encore une fois, il était dans une résidence qui était quand même une résidence dans la banlieue de Budapest, visiblement dans une résidence apparemment d'un certain standing, assez haut de gamme.
Avec les moyens qu'il avait.
Il faut aussi financer le loyer, faut aussi financer tout ça.
Donc il y a un travail sur le blanchiment à faire sous cette résidence.
J'aimerais qu'on retourne au tribunal judiciaire de Paris où on vous retrouve, Boris Karlamov, puisque Mohamed Amra est en ce moment même devant le juge des libertés et de la détention. Et vous avez pu le voir, l'apercevoir quelques minutes dans son box avant le début de l'audience. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de son attitude ?
Oui, Mohamed Amra, il se trouve actuellement devant donc cette juge des libertés de la détention. On a pu l'apercevoir pendant deux, trois petites minutes il y a quelques instants avant que la publicité des débats ne soit restreinte et que ce huis clos soit acté avant qu'on nous demande donc de quitter la salle. Mohamed Amra, il est habillé comme sur les images de l'aéroport que vous avez pu voir aujourd'hui sur BFM TV. Il est entouré par trois gendarmes du GIGN, habillés en kaki avec des cagoules qui observent les rares personnes qui étaient présentes dans cette salle et qui jettent un regard permanent, notamment sur le narcotrafiquant. La juge des libertés de la détention qui commence par demander confirmation de sa date de naissance ou encore de son adresse. Mohamed Amra la regarde fixement. Il hoche la tête dès qu'on lui demande confirmation, notamment de sa date de naissance. Puis on en vient à l'énumération des faits qui lui sont reprochés, puisqu'on va le rappeler, Mohamed Amra a été ce soir mis en examen. Mohamed Amra hoche à nouveau la tête et dit des tout petits oui. Mohamed Amra qui est donc devant la JLD. On nous a demandé de sortir de la salle puisque je le rappelle, le huis clos a été demandé. Et lorsque nous sommes sortis de la salle, Mohamed Amra a jeté un regard vers donc les journalistes qui étaient présents ici dans cette petite salle d'audience du tribunal judiciaire de Paris. La JLD qui va statuer d'ici quelques instants sur le placement en détention de Mohamed Amra, des placements en détention provisoire, mais nul doute forcément ce soir que l'ennemi public numéro un dormira en prison.
Merci Boris Karlamov. Avec Inès Médé-Tognon, on vous retrouvera dans les prochaines minutes. On suit avec vous cette audience.